chers amis, bien conscients de nos limites, nous aurions aimé, avec le secours du Seigneur, nous occuper ensemble de quelques sujets pratiques de la prophétie. Nous répétons, bien conscients de nos limites à cet égard, mais les temps dans lesquels nous sommes parvenus font penser à ce que Paul dit dans l'Épître aux Romains, « La nuit est fort avancée et le jour s'est approché. L'étoile du matin, brillante espérance de la foi chrétienne, est déjà levée dans nos cœurs. Nous pouvons tenir pour certain que nous sommes parvenus à l'extrême limite de la patience de Dieu envers ce monde dont les privilèges ont été si grands. Nous parlons du monde occidental, du monde christianisé. Rappelons que les jugements annoncés si distinctement dans la parole de Dieu ne laisseront aucune excuse à quiconque. Mais Dieu n'intervient pas en jugement avant d'avoir épuisé une patience qui nous est montrée dans la parole de Dieu sous la figure d'un vigneron et d'un cultivateur. L'un attend que la moisson soit plus que mûre et l'autre que les raisins soient plus que mûrs. Dieu attend, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais qu'aujourd'hui encore une âme dans nos familles, dans nos milieux, saisie par l'Esprit de Dieu, vienne à la repentance et à la vie. Nous disons donc que nous aurions aimé ouvrir le prophète Daniel et en lire quelques passages, mais préalablement, pensant être utile dans la mesure où nous pouvons l'être, sans aucun doute, pensant être utile à ceux qui sont jeunes en particulier, nous lirons d'abord quelques versets, les premiers dans le premier livre de Samuel. Avant d'aborder le prophète Daniel comme nous aimerions le faire, et peut-être d'autres portions aussi, selon ce que le Seigneur pourra placer devant nous. Mais nous voulons d'abord ouvrir la parole de Dieu au premier livre de Samuel au chapitre 9, et lire ce passage avec d'autres en guise de préambule à nos entretiens sur ce sujet si important et si immédiat que celui de la parole prophétique. 1 Samuel, chapitre 9, nous lisons au verset 6. C'est Saül qui parle et il dit à son serviteur, « Voici, je te prie. » C'est le serviteur qui parle à Saül et il lui dit, « Voici, je te prie, il y a un homme de Dieu dans cette ville. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit arrive infailliblement. Allons-y maintenant. Peut-être nous enseignera-t-il le chemin par lequel nous devons aller. » Au verset 8, « Et le serviteur répondit de nouveau à Saül et dit, « Voici, il se trouve que j'ai en ma main le quart d'un sicle d'argent, et je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous enseignera notre chemin. » Autrefois, en Israël, un homme, quand il allait consulter Dieu, disait ainsi, « Venez et allons vers le voyant, car celui qu'on appelle prophète aujourd'hui se nommait autrefois le voyant. » Et Saül dit à son serviteur, « Tu dis bien, viens, allons. » Et ils allèrent à la ville où était l'homme de Dieu. Nous ouvrons maintenant le livre des Actes des Apôtres. Et nous allons lire, dans une phrase bien connue, quel est le grand sujet de la prophétie. C'est dans le discours que l'apôtre Paul fait au roi Agrippa dans le chapitre 26 du livre des Actes des Apôtres. Et au verset 22. Ayant donc reçu le secours qui vient de Dieu, me voici debout jusqu'à ce jour, rendant témoignage aux petits et aux grands, ne disant rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont annoncé devoir arriver, savoir qu'il fallait que le Christ fût soumis aux souffrances et que le premier, par la résurrection des morts, il devait annoncer la lumière et au peuple et aux nations. Et enfin, nous ajoutons encore un verset à la seconde épître de Pierre, qui est sans aucun doute à l'esprit de chacun. Seconde épître de Pierre, chapitre 1er, page 190, verset 19. Et nous avons la parole prophétique rendue plus ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs, sachant ceci premièrement, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même ou n'est d'une interprétation particulière. Car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par l'Esprit Saint. Or, il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme aussi il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront furtivement des sectes de perdition, reniant aussi le maître qui les a achetés, faisant venir sur eux-mêmes une prompte destruction. Nous arrêtons là. Nous allons d'abord rappeler une parole bien significative d'un cher devancier qui disait « Il y a un grand danger à s'occuper de la prophétie, c'est que elle serve seulement à nourrir notre curiosité. S'il ne s'agissait que de ce but, ajoutait-il, je ne donnerais pas deux sous de toute la prophétie. Mais son but est bien plus élevé, bien plus important que d'alimenter la curiosité bien légitime de quelqu'un qui aujourd'hui se demande « Où allons-nous ? Où va ce pauvre monde qui, malgré tous ses progrès, nous donne des inquiétudes nouvelles chaque jour ? L'évolution, source pour les hommes, disait-il, de richesse, d'émancipation, d'affirmation du bien-être dans ce monde, aboutissent, hélas, nous ne dirons que cela, mais nous espérons que cela est suffisant pour que nous soyons d'accord sur ce point précis. Cette évolution des sciences humaines aboutit à quoi ? À mettre dans les mains des hommes la possibilité de faire disparaître en quelques instants toute vie de dessus la planète. Nous savons bien qu'il en est ainsi et que chacun de nous ici est assis sur 2 ou 3 tonnes d'explosifs. De sorte que nous comprenons bien que quelqu'un se demande de quoi sera fait demain. Où allons-nous ? Qui peut répondre à cela ? Les grands hommes de ce monde, nous dirions avec l'apôtre, mais où est le scribe ? Où est le disputeur de ce siècle ? Où sont vos ressources? Vous avez affirmé que vous aviez les moyens par devers vous de soigner, de guérir ce malade, mais il va chaque jour plus mal. Comprenons bien que quelqu'un de sensé aujourd'hui soit rempli d'inquiétude. Qui peut donner une réponse apaisante, satisfaisante? Personne. Et nous savons qu'au contraire, le monde, la parole de Dieu le dit, les hommes iront de mal en pis, séduisant et étant séduits, inventeurs de mauvaises choses, leurs pieds rapides pour verser le sang, la voie de la paix, ils ne l'ont pas connue. Celui que nous choisissons, c'est Barabbas, ont-ils dit, un meurtrier, le prince de paix, qu'il soit crucifié. Comment voulons-nous que ce monde aujourd'hui soit dans une ligne, dans une direction qui nous donne des apaisements? Impossible. Qui peut répondre à ces questions de l'homme angoissé? Personne. Mais la parole de Dieu n'a pas besoin, chers amis, d'être traitée avec mansuétude, étant donné son âge considérable et à laquelle on ne peut pas demander d'être à la mesure des nécessités du temps dans lequel nous sommes parvenus. Bien au contraire, loin d'être en deçà ou en retard sur le progrès des hommes, la parole de Dieu est cette lumière brillante projetée sur le chemin de l'homme, lui découvrant quel est son état et quelle est la fin du chemin dans lequel il s'engage tête baissée en suivant un chef. Le chef de ce monde, le menteur et le meurtrier. La parole de Dieu seule peut répondre à ces questions. Non pas alimenter, satisfaire une curiosité peut-être déplacée ou malsaine, mais montrer à l'homme sa véritable condition et la nécessité de se jeter dans les bras d'un sauveur qui tend la main encore aujourd'hui, mais qui demain sera inexorablement juge des vivants et des morts, et devant lequel, bon gré mal gré, que l'on s'en moque, que l'on nie cela, que l'on considère cela comme des choses surannées, il faudra bon gré mal gré fléchir les genoux et reconnaître qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Chacun devant ce tribunal devra dire « Quelle folie fut la mienne !» Cet homme, il a le droit en effet de juger, parce que lui a été un homme parfait sur la terre. Et il a été celui qui voulait me sauver. Et dans ma folie, j'ai dit non, pas maintenant, plus tard. Trop tard. Il faut entendre maintenant, toute bouche est enfermée, la condamnation sans appel de cet homme qui aujourd'hui est encore le sauveur. Demain, juge des vivants et des morts. Car nous comparaîtrons tous devant ce tribunal. Que l'on se fasse incinérer, que l'on n'invente quelque artifice que ce soit, personne ne pourra échapper. Parce que si un est mort, tous sont morts. Mais parce qu'un homme est ressuscité, tous devront ressusciter dans un corps approprié à cette nouvelle vie. Car, faut-il le dire en passant, la mort ne clôt en aucune manière la destinée de l'homme. À la mort, rien ne finit. Tout commence, mais dans une condition nouvelle. De sorte que ce cher devancier disait « Je ne donnerai pas deux sous de toute la prophétie, si elle avait seulement pour but d'alimenter notre curiosité. » Mais, disait-il, elle a un but bien plus élevé que cela, et nous espérons bien que chacun le réalise et le reconnaît comme tel. C'est celui de nous détacher de la scène présente, qui va disparaître par le jugement. C'est le côté négatif. Et d'autre part, nous attacher à Christ, qui est au centre de toute la prophétie, comme il en est de toute la parole de Dieu. Mais l'importance de la prophétie n'échappe à personne. La place qu'elle occupe dans la parole de Dieu, place considérable. Dans l'Ancien Testament, au temps du Seigneur, les Juifs, comme le Seigneur le dira lui-même, partageaient cette partie de la parole de Dieu connue alors en trois parties, les livres de Moïse, la loi, les psaumes et les prophètes. Et selon les 22 lettres de l'alphabet grec, ils avaient divisé l'Ancien Testament en 22 parties. 5 livres de Moïse, 4 livres que l'on appelle hagiographes, un mot un peu savant, mais qui veut dire livre saint, c'est-à-dire les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. 5 livres de Moïse, 4 livres appelés hagiographes, et 13 livres alors qui comprenaient le grand chapitre des prophètes, les petits prophètes, 12 petits prophètes comptant seulement pour une unité. Pour nous dire, vous voyez, dans l'Ancien Testament, les Juifs donnaient à ce titre de prophète le contenu considérable autre que les livres de Moïse et les 4 livres saints dont nous avons parlé. Donc son importance est considérable. Nous ne pouvons pas oublier cela. Quel est le but de la prophétie? Quel est le but poursuivi par Dieu en donnant la prophétie? Tout d'abord, chers amis, il faut bien nous dire que quand Dieu intervient par un prophète ou un homme qu'il qualifie pour être le porteur de sa parole, cela signifie toujours un état de décadence, de rupture morale du contrat qui a été passé par le peuple avec Dieu. Les conditions pour jouir de la faveur que Dieu promet à son peuple, les conditions ne sont plus remplies. Faut-il rappeler que c'est l'histoire de notre cœur naturel? Personne n'y a échappé, ni Israël, ni chacun de nous, ni l'Église. Le cœur naturel est toujours porté à retourner à la méchanceté dont Dieu l'a retiré. De sorte qu'après un commencement extraordinairement heureux pour le peuple d'Israël, nous parlons d'Israël, la prophétie, nous le verrons, s'il plaît à Dieu, a comme objet essentiel Israël et les nations, en d'autres termes la terre. Et l'Éternel devra dire, en parlant de son peuple, dans les jours du commencement, comparant ses rapports du commencement avec un état de fiançailles, lorsque les élans du cœur de chacun des fiancés sont si beaux, sont sublimes. Ah, disait l'Éternel, s'ils avaient toujours ce cœur-là. Lorsque je me suis fiancé Israël à la sortie d'Égypte, lorsqu'il est entré dans le désert, mais cela, hélas, n'a pas duré bien longtemps, comme il en est de tout ce qui est lié à notre responsabilité personnelle. De sorte que Dieu alors veut avertir, ne manque pas d'avertir son peuple. Et il suscite des prophètes pour venir lui parler à sa conscience, réveiller celle-ci, l'avertir solennellement que le chemin dans lequel il s'engage, s'il n'y a pas amendement, s'il n'y a pas retour vers l'Éternel, vers Dieu, ce chemin nécessairement, inéluctablement, parce que cela est lié aux nécessités de la nature de Dieu, de la gloire de Dieu, nécessairement ce chemin se termine par des jugements. Et le plus terrible d'entre eux, ce fut lorsque, hélas, il n'y eut plus de remède, et que, bien plus que de châtier son peuple par des incursions de nations qui intervenaient dans les frontières d'Israël, et il opérait beaucoup de ravages. Hélas, Dieu a ôté ce peuple de sa terre et l'a transporté, car c'est ainsi que Dieu parle. Il se sert des nations, mais j'ai transporté Israël de sa terre vers Babylone. Ce fut un jugement terrible que celui-là, arrachant Israël à sa terre pour le mener là dans un pays étranger à 900 kilomètres à travers les déserts et s'asseoir au bord du fleuve pour y suspendre leur harpe et répondre à ceux qui leur demandaient « Mais chantez-nous un de vos cantiques, vous avez appris à chanter de façon si touchante, si mélodieuse dans votre pays, chantez-nous un de vos cantiques relatifs à Sion, à la montagne que Dieu a choisie pour y faire son habitation, à ce qui faisait le cœur de votre pays, chantez-nous un des cantiques de Sion, cette belle montagne, ce lieu que Dieu a choisi pour y faire demeurer son nom. Mais comment chanterons-nous sur un sol étranger? Comment pouvons-nous chanter ici? Versant des larmes amères, c'est alors que un prophète d'après la captivité nous montrera qu'un résidu a été formé dans la souffrance, dans ces temps de captivité, pour revenir à Jérusalem. Mais n'anticipons pas. Dieu envoie donc un prophète. Et jusqu'à un certain temps, Dieu parle par un prophète qu'il qualifie à la partie responsable du peuple, à la sacrificature ou à la royauté, au tenant de la sacrificature et de la royauté. Mais, chose extraordinaire, à partir d'un moment donné, il faut bien retenir cela. Et cela nous aide à bien saisir quelques pensées de Dieu. À un moment donné, non seulement le prophète parle comme étant la bouche de l'Éternel, mais Dieu fait écrire la prophétie. Et notre cher devancier Henri Rossier expose bien cela dans un de ses traités. Il s'agit du temps de Jotham, père d'Akazia, grand-père d'Ézéchias. Nous avons à ce moment-là le prophète Ésaïe qui est suscité sur la scène. Et lui est le premier qui va écrire ce que Dieu lui donne à faire connaître au peuple. Pourquoi ? Pour qu'il n'y ait pas d'incertitude, pas d'équivoque. Personne ne pourra dire, nous l'avons déjà mentionné tout à l'heure, personne ne pourra dire, je ne savais pas, je n'étais pas informé. Dieu fait écrire sa parole prophétique, les avertissements qu'il donne, pour que chacun puisse en prendre connaissance et adapter sa conduite à ce que Dieu fait connaître dans ces jours-là. Et si nous voulons bien regarder, c'est très significatif, nous sommes donc l'année de la mort du roi Ouzias. C'est le moment où Jérémie ou Ésaïe entre en scène, où il est converti et il reçoit l'appel de Dieu. Et si vous comptez le temps, depuis le schisme à partir de Roboam, lorsque le schisme est intervenu, qu'il y a deux royaumes au lieu d'un, Israël et Juda, vous comptez le temps, au jour d'Ozias, nous sommes juste à la moitié du temps. Il y a environ 2 siècles depuis le début du royaume de Juda, séparé d'Israël, et il reste 2 siècles jusqu'au moment de sa transportation. Cela veut dire qu'à la moitié de son histoire, Dieu nous montre qu'il n'y a plus de remède pour revenir à ce qui était au commencement, un état normal qui a existé pendant un temps. Nous sommes aussi exactement à la moitié des rois. Il y a 10 rois d'un côté, 10 rois de l'autre, lorsque nous sommes au jour d'Ésaïe, dans son livre, prophète qui est très apprécié par les Juifs. C'est en effet un homme d'une intelligence supérieure qui aborde les sujets les plus vastes, les plus élevés, avec beaucoup d'aisance et employant un style très recherché, très agréable. C'est un homme brillant quant aux possibilités de l'esprit de l'homme. Mais, disons-le tout de suite, est-ce les qualités de l'écrivain, du prophète, qui donnent de l'importance à sa parole. Nullement. Nullement. Ce qui donne de l'importance à la parole du prophète Isaïe comme à celle de tout autre. Parce que Dieu choisira aussi bien un pauvre berger, lui disant, Amos, j'ai besoin de toi pour que tu sois prophète au milieu de mon peuple. Mais, dit-il, je ne suis pas prophète, je ne suis même pas fils de prophète. Mais ce qui va qualifier cet homme pour parler au peuple, c'est qu'il sera conduit par l'Esprit de Dieu pour donner au peuple exactement ce que Dieu pense de lui, pour l'avertir, comme il en est pour Ésaïe, comme il en est pour Amos, comme il en est pour l'apôtre Paul, un homme de grand savoir, mais comme il en est pour un pauvre pêcheur au bord du lac de Galilée, desquels on disait de lui et ses compagnons, ce sont des gens illettrés et du commun. Mais ce qui donne de la valeur à ce qu'ils nous ont dit, à ce qu'ils ont écrit, c'est que ils sont seulement la plume pour nous communiquer la vivante et permanente parole de Dieu, divinement inspirée dans ses moindres détails et depuis la première jusqu'à la dernière syllabe. Que dit le prophète? Pourquoi le prophète est-il suscité? Nous l'avons dit tout à l'heure, le prophète suppose toujours un temps de décadence, un temps de ruine. Et cela, chers amis, est lié à ce que nous sommes en nous-mêmes, dans nos cœurs. Il ne faut pas nous étonner de cela. Que dit le prophète? Avertir, nous l'avons dit. Montrer que Dieu ne pourra pas toujours supporter cet état de choses selon lequel le contrat, l'alliance qui a été passée entre Dieu et son peuple est foulée aux pieds. Nous savons bien, faut-il rappeler un détail extrêmement important, nous savons bien qu'ils s'étaient tournés vers les idoles des nations et qu'ils en étaient venus. Chacun le pense bien, le réalise bien, qu'ils en étaient venus à une énormité de laquelle le Seigneur dit, mais jamais, jamais, cela ne m'est monté au cœur, que mon peuple prenne des enfants, de ses petits-enfants, de mes enfants, pour en faire des sacrifices vivants, à offrir à cette idole abominable, chauffée à blanc, et qui fermait ses bras mécaniques sur de petits êtres innocents. Faut-il que nous soyons remplis, que notre cœur soit rempli de folie pour qu'il en soit ainsi? Mais devons-nous nous étonner de cela, jeunes? Devons-nous nous étonner de cela lorsque nous consultons ce que nous sommes en nous-mêmes, au fond de notre cœur? Si nous lisons ce que le Seigneur nous dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais ce qui sort de l'homme. Et il va nous donner une liste. Il n'est pas nécessaire de la présenter, mais chacun se la rappelle bien, ou la lira dans Marc chapitre 7. Et par quoi l'Éternel, par quoi le Seigneur commence-t-il? Vous avez remarqué par quoi le Seigneur commence. Comme Dieu nous connaît, chers amis. Ensuite, dénonçant ce mal qui gagne le peuple tout entier et qui devra nécessairement être visité par le jugement, en même temps, chose vraiment remarquable et bienfaisante pour nous, le prophète vient encourager ceux qui souffrent. Car, remarquons-le bien, il y a toujours eu dans tous les temps un petit résidu suscité par Dieu qui se manifeste sur la scène par un effet, remarquons-le bien, de la bonté de Dieu. À tel point que ce prophète Ésaïe dira, si l'Éternel ne nous eût laissé un bien petit résidu, nous aurions été comment? Nous aurions été semblables, Ésaïe 1, nous aurions été semblables à Sodome et à Gomorre. Nous aurions fini exactement comme Sodome et Gomorre, parce que nous étions sur le même chemin. Mais Dieu a laissé un bien petit résidu. Et pour lui, ce petit résidu constitué en général de personnes très simples, de la campagne, sans relief, sans attirer aucunement l'attention sur eux, sauf la réprobation du système qu'il désavoue en s'en séparant, attirant sur eux la vindicte de ce système qui est en place Il en est ainsi toujours et dans tous les temps. Parce que ce système prétend à une continuité historique, à être, comme le Seigneur le dira par l'apôtre Jean, vous comprenez bien, ceux qui se disent être juifs, mais qui ne le sont pas, qui ont la prétention d'être les tenants de ce que Dieu a établi depuis le commencement, mais où est l'identité morale entre la chambre haute à Jérusalem et le centre moral moteur de l'Église multitude aujourd'hui? Quelle comparaison peut-on établir? De sorte que ceux qui se séparent de ce système, Seigneur le monde, dans les épîtres de l'Apocalypse, ceux qui se disent être juifs devront venir se prosterner devant toi, car ils devront reconnaître que tu étais aimé de moi. Et les souffrances que tu connais aujourd'hui, c'est pour un temps. Mais voilà aussi un des objets de la prophétie, c'est de nous parler de Christ et de placer devant le cœur du fidèle qui souffre la brillante espérance de la gloire de Christ à laquelle le fidèle sera associé tout à l'heure. Vous voyez quel sujet complet que celui traité par le prophète. Avertir, dénoncer le mal de la façon la plus claire qui soit, le mettant en évidence, projetant sur lui. C'est une méthode que Paul nous montre comme étant une méthode folle, mais voilà la règle pour nous mesurer. Qu'est-ce que Dieu dit? Ensuite, dire aux fidèles, montrer aux fidèles que le chemin dans lequel ils souffrent est un chemin dans lequel le parfait modèle a marché. Sans doute, pour le résidu de l'Ancien Testament, Christ n'avait pas encore tracé son chemin, mais par l'esprit prophétique, il était déjà clairement établi. Et ceux qui viendront demain, pour le dire en passant, quel sujet d'émerveillement pour eux, ils trouveront dans la parole de Dieu, dans la parole prophétique, déjà le récit de leurs expériences, leurs sentiments. Ils vont les trouver là dans la parole de Dieu et ils vont comprendre que celui qu'ils ont rejeté de la crucifixion duquel ils sont pleinement coupables avec le peuple était le véritable résidu, celui dans lequel se manifestait le véritable esprit du résidu. Et quel soulagement pour eux demain de lire dans la parole de Dieu les souffrances qui furent sa part et auxquels ils seront associés avant de connaître la pleine et entière délivrance avec lui. Vous voyez, chers amis, voilà quelques notions que nous avons devant nous en présentant la parole prophétique. Maintenant, nous devons encore situer certaines périodes très importantes qui séparent les prophètes les uns des autres. Il y a d'abord les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur avant que la captivité intervienne. Nous savons bien que c'est un point très important dans l'histoire de la parole de Dieu, dans l'histoire du monde. Jusqu'en 606, à une année près sans doute, avant notre ère, Dieu avait toujours son trône à Jérusalem. Il y avait deux piliers sur lesquels s'arboutaient les relations entre Dieu et son peuple, c'est-à-dire le trône du roi et l'autel où officiait le souverain sacrificateur. C'était les deux piliers qui étaient à la base des relations de Dieu avec son peuple. Hélas, ce chemin de décadence s'affirme toujours plus, jusqu'au moment où le prophète Jérémie dira « Maintenant, il n'y a plus de remède. » Et les derniers rois de Juda, car le royaume d'Israël était déjà dissous, il y avait déjà 150 ans que les 10 tribus avaient été envoyées en captivité dans cet immense empire assyrien. Et cet exemple, remarquons bien cela comme c'était très important, cet exemple n'avait pas eu la répercussion que l'Éternel en attendait pour le royaume de Juda. C'est ce qui fera dire l'Éternel, Judas est, l'état de Judas est encore pire que celui des 10 tribus. Bien que à Jérusalem se trouvait donc le trône et l'autel, et qu'il y avait toujours le culte de l'Éternel, l'Éternel dira de son peuple, Judas, ils sont perfides. Et au dernier réveil qui eut lieu sous Josias, ils ont fait semblant de suivre ce roi pieux qui, tout jeune, prenant conscience de la ruine dans laquelle se trouve ce peuple, et on peut voir les différentes phases de son développement, des activités qu'il a remplies dès son plus jeune âge, car vous voyez, dans ces temps mauvais, Dieu rajeunit ses cadres en quelque sorte, et il se sert d'un roi très jeune pour opérer des choses extraordinaires. Mais, hélas, le peuple comme tel, dans son ensemble, n'ose pas, sous l'impulsion énergique de Josias, n'ose pas s'opposer aux réformes imposées par Josias. Mais ils ne le font pas de cœur, ils le font à contre-cœur. Et ils adoptent une attitude extérieure qui ne correspond nullement à des sentiments que Dieu voudrait lire dans leur cœur. Et Dieu les appelle des perfides. Et hélas, après la disparition de Josias, on a dit, la dernière lampe de l'espérance pour ce peuple s'éteint. Et vous savez comment les fils de Josias, ou son petit-fils, il y a Joachas, il y a Jéhoiakim, il y a Joachim, le fils de celui-ci, il y aura Sédécias, le frère de Jéhoiakim. Ces derniers rois, c'est une succession de rois, fils et descendants de Josias, qui vont adopter une conduite qui défie toute description. N'est-ce pas quelque chose de terrible pour le dire en passant, cher ami? Et n'est-ce pas bien vrai que celui qui a dit que la pire des corruptions, c'est la corruption de ce qui était un jour séparé pour Dieu? C'est une parole lourde de sens, celle-là. La pire des corruptions, c'est la corruption de ce qui un jour marchait avec Dieu. Car le croyant, celui qui est en rapport avec Dieu, qui s'écarte, n'est plus maître de son arrêt. Et il s'enfonce dans un bourbier à l'égard duquel le mondain aura quelques retenues. Mais les derniers rois de Juda offrent une histoire consternante au possible pour se terminer par ce pauvre Sédécias. En 588 avant notre ère, alors, le temple sera brûlé, la ville sera rasée, et ce pauvre roi, vous le savez bien, sera rendu aveugle au moment où le sang de ses fils coule par terre, le roi faisant égorger ses fils, et lui-même ensuite, rendu aveugle, s'en va en captivité. Quelle fin terrible! Nous sommes donc à ce moment où le peuple n'existe plus comme tel. Dieu a ôté son trône de Jérusalem. Et nous avons, par le prophète Ézéchiel, par exemple, une figure, une description saisissante. La gloire qui habitait dans le temple à Jérusalem le remplissait de fierté. Et au jour de Jérémie, il disait, « Ah, le temple de l'Éternel. Nous sommes le seul peuple au monde que Dieu ait choisi pour venir habiter au milieu de nous. Nous sommes le peuple le plus privilégié. » Pensant que leur privilège était absolu, que rien ne pouvait entamer la réalité de ceci, comme si leur état moral était, pour Dieu, indifférent. Nous avons le temple. Mais les armées de Nebuchadnezzar étaient déjà en chemin pour venir faire le sac de Jérusalem. Et ce pauvre Jérémie, dernier prophète en scène, a pleuré des larmes amères et leur disait, « Mais allez voir à Silo, mais vous glorifiez de votre temple à Jérusalem, mais allez voir à Silo, ne vous souvenez-vous pas de ce que j'ai fait à Silo ?» Au jour d'Élie le sacrificateur, lorsque, hélas, au lieu de maintenir ce lien entre le peuple et Dieu, avec laissant faire ses fils, qui détruisaient eux-mêmes absolument ce lien, mais allez voir ce que j'ai fait à Silo, une entière destruction, il ne reste rien de silo de ce lieu que j'avais choisi et où se trouvait établi le tabernacle. Quel immense désastre lorsque les deux fils d'Élie sont morts, 36 000 hommes sont couchés par terre, et cette pauvre femme, quand on lui dit « Oh, ne crains pas, tu as un fils », en enfantant ce fils, comment va-t-elle l'appeler ? C'est une femme pieuse, sans doute, s'identifiant avec ce petit résidu dont nous avons dit un mot tout à l'heure. Comment va-t-elle appeler son fils ? Sans doute son mari est mort, son beau-frère est mort, son beau-père vient de connaître aussi la mort. Une défaite sans précédent pour le peuple de Dieu, mais ce qui surpasse tout pour elle. Quel cœur que celui-là, lorsque le cœur est réveillé pour le Seigneur. Elle va dire Ichabod. Appelez cet enfant Ichabod, c'est-à-dire il n'y a plus de gloire. Dieu s'en est allé. L'arche est prise, elle est captive dans le pays des Philistins. Nous sommes privés de la présence de Dieu, Ichabod. Et cette femme va pleurer des larmes amères sur la détresse, sur la défaite complète. Allez voir à Silo ce que j'ai fait. Ne vous glorifiez pas de vos privilèges, car les privilèges sont, chers amis, à la mesure de la responsabilité. Et Dieu mesure toujours notre état, non pas d'après ce que nous en pensons, d'après le croquis que nous pouvons en donner, la silhouette que nous retenons, mais d'après ce qu'il a établi au commencement et d'après ce qui aura lieu demain. J'ai établi mon peuple comme une vigne. Mon peuple, je l'ai séparé des nations comme il en est d'une vigne que j'ai plantée sur un coteau fertile. Je l'ai entouré de soins. J'ai adopté toutes les mesures qui étaient utile, indispensable pour avoir des bons fruits. Et lorsque je suis venu pour opérer la récolte, qu'est-ce que j'ai reçu ? Des raisins sauvages. La vigne de l'Éternel. La vigne de l'Éternel. Voilà ce qu'elle était au commencement, voilà ce qu'elle a donné. C'est donc d'après ce qui a été établi au commencement que Dieu juge son peuple. Et il va prononcer 7 malheurs, vous le savez bien. Et au centre de ceci, il y en a un qui ne peut pas échapper à notre attention. Quel est-il ? Et aujourd'hui, il est en pleine floraison dans ce monde. Quel est-il ? Le malheur central. Malheur ! Malheur ! D'abord, le prophète dira, malheur à moi, je suis perdu devant la sainteté de Dieu. Je réalise, non pas seulement ce que j'ai fait, mais ce que je suis est encore bien pire quand je me considère devant cette lumière éclatante de la sainteté de Dieu. Je suis perdu. Mais il y a des ressources à l'autel. Encore aujourd'hui, il y a encore la ressource de l'autel. Il n'y a pas encore de victime sur l'autel dans ce jour-là, mais le charbon ardent pris sur l'autel est une anticipation de ce que Dieu peut faire aujourd'hui en vertu du feu de l'autel sur lequel la sainte et adorable victime a été consumée, de sorte que Dieu aujourd'hui est juste, demeure juste, en justifiant celui qui est de la foi de Jésus, Dieu nous donnant une justice formelle, légale, inattaquable, parce que Christ a répondu pour moi sur la croix à toutes les exigences de la sainteté et de la justice inflexible de Dieu. Qu'est-ce que le prophète nous dit ensuite dans ce malheur, après l'avoir appliqué à lui-même sans doute ? Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Est-ce que cela ne fleurit pas aujourd'hui dans toutes les organisations culturelles, de formation, de tout ce qui est susceptible, tout ce qui est employé pour la formation de la jeunesse aujourd'hui. Quelqu'un dans notre pays disait, mes enfants, hélas, ils vont à l'école, mais au lieu d'une école de formation, c'est une école de déformation. Et comment Dieu juge-t-il son peuple ? D'après ce qu'il a établi, la vigne au commencement, et d'après ce qu'il veut faire demain, un royaume, vous me serez un royaume de sacrificateurs. Et qu'est-ce que Dieu nous montre, chers amis ? L'année de la mort du roi Ozias, le roi le plus un des rois les plus privilégiés, et il termine comment sa vie? Comment se termine la vie de ce roi? Dans une maison d'isolement comme lépreux. Vous voyez, la vigne, ce qu'elle a produit au commencement, et le trône du royaume occupé par un roi lépreux. N'en est pas autrement de l'Église. Nous serons mesurés d'après Acte 2, les privilèges extraordinaires que Dieu a donnés, et ce que nous serons sur la nuée tout à l'heure, la gloire dans laquelle le Seigneur va nous introduire. Voilà les deux éléments par lesquels Dieu apprécie ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous avons fait des privilèges d'acte 2, et ce que nous sommes par rapport à notre glorieuse destinée. Quand nous arrivons donc, chers amis, pour clôturer cette première petite rencontre, quand nous arrivons, il faut bien retenir cela, en 606 avant notre ère, c'en est fini de l'existence du peuple de Dieu, du peuple de Juda. Jérusalem est envahie, Jérusalem est détruite, et la gloire de l'Éternel retourne en son lieu. Et Ézéchiel nous la montre, se retirant, mais comme à regret. D'abord à l'extérieur de la ville, ensuite sur le faîte de la maison, et puis sur la montagne, à l'Orient, comme si elle disait, « Mais j'éprouve tant de chagrin de quitter ce lieu. » Mais maintenant, il n'est plus possible. Il n'y a plus rien de compatible avec ce que je suis en moi-même. Josué, homme extraordinairement vaillant. Vous savez bien comment le peuple de Dieu est assuré de la présence de celui qui vient là avec son épée nue. Mais que dit-il? Que dit-il? Josué dit, es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Je ne suis ni un Israélite, ni un Cananéen. Je ne suis ni pour toi, ni contre toi. Je ne suis pas associé aux hommes. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Ôte la sandale de ton pied, car cette épée que j'ai dans ma main, je veux la mettre au service du peuple, marcher devant toi, mais sans jamais oublier ce que je suis. Ôte la sandale de ton pied, car le lieu sur lequel tu te tiens, c'est une terre sainte. Dieu n'oublie jamais de maintenir son caractère. Prends toujours soin de sa gloire. Avec n'importe qui, quels que soient les temps. Et le caractère précisément d'un résidu, c'est de reconnaître cela. Tu as gardé ma parole, n'a pas renié mon nom. Et au jour où le coup est donné à Jérusalem, il y aura un petit résidu qui sera mis à part, qui sera maintenu. Et nous avons trois prophètes qui sont sur la scène en ce moment-là. Nous avons Jérémie qui va rester avec le peuple. Nous avons Ézéchiel qui va partir en captivité, qui va s'occuper, lui, dans son livre, dans tout ce qu'il va nous donner de l'avenir d'Israël. Et nous avons Daniel qui, lui, va nous occuper des nations. Le prophète avant la captivité. Ceux qui ont prophétisé les derniers, ce sont Sophonie et Habacuc, prophètes de la période chaldéenne. Trois prophètes alors qui sont là au jour de la captivité, qui vont la connaître. Jérémie demeurera dans le pays, Ézéchiel et Daniel vont partir à Babylone. Il y aura ensuite trois prophètes de la période persane, après la captivité, trois prophètes vont s'occuper de ce pauvre résidu remonté de Babylone. C'est donc Zacharie, Agée et Malachie. Et remarquons bien, chers amis, cela il ne faut jamais l'oublier, que les grands mouvements des nations, les grandes mutations dans l'histoire du monde, elles sont toutes liées à la condition d'Israël. C'est extraordinaire cela. Mais Israël est au centre de toutes les voies de Dieu envers ce monde. Quand il s'agit de châtier son peuple, hélas, avec regret, car c'est son œuvre étrange, inaccoutumée pour Dieu de juger. Dieu est un Dieu de grâce, il veut le salut du pécheur, pas son jugement. Mais quand Dieu doit châtier son peuple, il choisit, il sait bien se mettre à part une verge. Et au temps de Nebuchadnezzar, jamais personne ne pouvait supposer que cette province, que ce royaume allait prendre une hégémonie aussi étendue, aussi importante, car jusque-là, aucune nation n'avait joui d'une hégémonie sur toutes les autres. Mais quand Dieu va châtier son peuple, alors il suscite les Chaldéens qui mettent fin à l'empire d'Assyrie, ou en tout cas qui le prennent à leur compte, et il suscite un homme qui sera, nous verrons cela Dieu voulant, si le Seigneur nous accorde encore d'y revenir, qui sera la tête d'or de cette grande statue. Toi, ô roi, tu es le roi des rois, et Dieu va lui donner le pouvoir comme il ne l'a jamais donné à qui que ce soit. Jamais auparavant, jamais par la suite, sauf à celui dont il est question dans le psaume 8, et dont la gloire éclipse bien, et de bien loin celle de Nebuchadnezzar, si grande soit-elle. Mais Dieu suscite des nations en relation avec les conditions de son peuple, pour le châtier, les Babyloniens, les Chaldéens, pour le relever de sa chute, et le ramener après 70 ans dans la terre de ses ancêtres, il suscitera les Mèdes et les Perses sur la scène, dont le premier grand empereur, Cyrus, sera bienveillant pour les Juifs, de façon absolument extraordinaire en relation avec les habitudes de ce peuple. Il y aura ensuite Alexandre le Grand, qui aura des relations particulières avec ce peuple pour arriver ensuite avec l'Empire romain. Mais Daniel nous a donné, pour terminer, nous a donné des choses extraordinaires. Cet homme, jeune encore, nous aurons intérêt à souligner son caractère moral, tout d'abord, avant que Dieu nous donne ce qu'il veut nous faire connaître par lui, car évidemment, vous pensez bien que ce n'est pas à un cœur dissolu, à un cœur indifférent que Dieu va confier ses secrets. Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. À qui Dieu va-t-il révéler la fin de Sodome et de Gomorre ? À Lot ou à Abraham ? Et Daniel est suscité sur la scène, jeune homme encore, en terminant, et quel exemple pour nous, à tout âge, mais pour ceux qui sont jeunes. Il a entendu ce prophète Jérémie par les rues de Jérusalem, prêchant la parole de Dieu pendant de si longues années, et avertissant avec pleurs, avec larmes, ce peuple pour qu'il s'arrête sur ce chemin de décadence. Et à qui nous devons-nous comparer le prophète aujourd'hui? Quel est le pendant du prophète aujourd'hui quant à ce qu'il était autrefois? L'évangéliste remplit exactement le rôle de ce prophète. Et ce prophète Jérémie posait une question. Et le Seigneur la pose encore ce soir, chers amis, peut-être pour quelques-uns d'entre nous, pour quelqu'un qui est jeune. Au moment où tout s'écroule, tout allève, prendre fin à Jérusalem. Et qu'est-ce que le prophète dit dans les rues de Jérusalem, de la part de Dieu, comme ce soir encore. Qui veut engager son cœur pour moi? Qui veut engager son cœur pour le Seigneur? Eh bien, ce jeune homme a dit, Seigneur, j'engage le mien. Bien puisse-t-il en être ainsi pour chacun de nous, pour ceux qui sont jeunes en particulier.